Radio Kapi.
Vous êtes sur Radio Okapi, il est 12h à Kinshasa. Voici le journal sur Radio Okapi. Consultation politique initiée par le chef de l'État. Le décor est bel et bien planté pour l'ouverture des assises à la présidence, nous dira Jacques-Yves Moulima dans quelques instants. La situation humanitaire est préoccupante en ce moment après les attaques attribuées aux rebelles ougandais de l'ADF dans le territoire de Beni. Des milliers de déplacés qui sont dans des familles d'accueil ne sont pas assistés à Kalunguta, Butembo et à Kabasha. Notre invité ce midi, c'est le promoteur du mois de la photo, Kazadi Sikasso, veut démontrer qu'avant la pandémie du coronavirus et après les confinements, la vie continue son cours normal. Madame, messieurs, bonjour au micro Pascal Massirika, mise en onde de Dieudonné Nyangassa. Consultation politique initiée par le chef de l'État congolais. C'est en principe ce lundi à Kinshasa que les premières personnalités seront reçues à la présidence. Pour l'instant, les dispositifs sont en train d'être mis en place au Palais de la Nation. Pour en parler, rejoignons tout de suite sur place notre envoyé spécial Jacques-Yves Moulima.
Effectivement, c'est d'abord la presse qui affûte ces dispositifs. La radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, s'active pour un direct. Les autres médias également se préparent. D'après les informations émanant de la presse présidentielle, pour cette première journée, ce sont les confessions religieuses ainsi que les institutions d'appui à la démocratie qui sont sur la liste. En effet, c'est la délégation de la CENI qui sera reçue en premier. Elle sera suivie par le CENSA, le CNDH ainsi que le CESAC. Viendront ensuite les organisations du suivi du processus électoral, notamment AETA et Simoncel, pour ne citer que celles-là. Toujours ce lundi, comme on l'a dit tantôt, les délégués de confession religieuse sont également sur la liste. C'est notamment ceux de l'Église du Christ au Congo, ECC, la Comico, l'Armée du Salut, ainsi que les Églises de Réveil. Signalons cependant que, bien qu'au programme du jour, le cardinal Fridolin Ambongo est indisponible et sollicite une autre date quant à ce. C'est aussi le cas pour les représentants de l'église kimbanguiste. Notons enfin que d'après le programme, débutant ce lundi 2 novembre, les consultations prendront fin dimanche 8 novembre prochain. Palais de la Nation, Jacques-Yves Moulima, Aouta, Radio Okapi.
Merci Jacques-Yves Moulima. Les négociations, vous l'avez dit, commencent lundi ici à Kinshasa selon le calendrier fixé par la présidente de la République à Lubumbashi, Siliana, qui croit en l'aboutissement heureux de ces rencontres. Les autres sont cependant sceptiques car d'après eux, il est difficile que la majorité change de camp. On écoute les uns et les autres au micro de Jean Gandou.
Ces consultations vont bien aboutir. Parce qu'il faudrait réunir un plus grand consensus afin de prendre des décisions qui s'imposent pour le bon fonctionnement des institutions du pays.
Nous voulons que ces consultations-là puissent accoucher, pas d'une souris, mais que ça puisse nous amener à ce que la majorité puisse changer pour que nous puissions quand même voir un changement dans ce que nous faisons. Il n'y a qu'une frange de la population, une trentaine ou une centaine de personnes qui vivent bien pendant que tous ici nous croupissons dans la misère, non?
Nous sommes déjà fatigués de cette coalition, ce mariage contre nature.
Bon, la politique est mouvante, hein? Les alliances se font et se défont. Alors, la première alliance n'a pas marché. Nous pensons que ces concertations vont aboutir à une deuxième alliance qui va mettre le chef de l'État à l'aise pour qu'il puisse pratiquer sa politique.
Donc, il n'y a rien qui peut se passer de plus que ce que nous vivons actuellement parce que rien ne va changer. Peut-être au moins s'il faisait la consultation pour les élections de 2023. Là, ça pourra aller.
Politique encore, l'AFDCA s'inscrit dans le schéma du dialogue prôné par le chef de l'État congolais en vue d'un consensus sur les questions essentielles de l'État congolais. Déclaration faite hier dimanche à Kinshasa par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo lors de l'adhésion à ce regroupement politique de 6 partis et personnalités politiques parmi lesquels l'Union des nationalistes de Willy Mishiki, l'Alliance des compatriotes pour le salut public que préside de Maître Prince Bouchiri et l'Alliance des chrétiens pour le renouveau et le progrès de Jean-Oscar Kibila. Tous accompagnent l'AFDC de Bahati Lukwebo dans la défense des valeurs républicaines et morales. Un reportage de Jean-Désiré Kanyama.
D'après le président de l'Alliance des compatriotes pour le salut public, cette adhésion permet à son parti d'accompagner les actions du chef de l'État au profit de masses populaires. Maître Prince Bouchiri.
Nous ne faisons jamais des choix sans réfléchir. Nous sommes là en toute conviction. Nous savons que l'option que l'AFDC a prise, c'est une option positive de soutenir les actions du chef de l'État pour que le peuple se retrouve.
Le président de l'UNANA explique qu'il a toujours été séduit par la vision de l'AFDC, Willy Michiki.
Nous venons de la Mouka. Nous avons toujours milité pour la refondation de l'état des droits. Et avec l'AFDCA et l'Union sacrée pour la nation, nous avons décidé, en âme et conscience, de rejoindre AFDC et alliés pour mener ce combat noble pour la République.
Et pour l'autorité morale de l'AFDCA, c'est le résultat du travail bien accompli depuis 10 ans maintenant. Modeste Bahati Lukwebo.
Les adhésions massives, c'est devenu une habitude. Ils ont trouvé que nous sommes un regroupement qui permet à ce qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Et ce sont toutes ces valeurs-là que nous défendons qui font que beaucoup de partis politiques nous rejoignent. Nous dépassons déjà 41 partis politiques, membres du regroupement AFDC allié.
Modeste Bahati Lukwebo confirme le demain. Ce mardi à Kinshasa, du 3e congrès de l'AFDC, parti phare du regroupement AFDCA.
Et puis dans l'Équateur, Ensemble pour la République soutient les consultations politiques initiées par le chef de l'État en vue de sortir le pays de l'imbroglio politico-juridique constaté dans la gestion du pays. Et c'est ce qu'affirment les membres du parti cher à Moïse Katumbi-Tchapwe. Ils se disent certes partie prenante à ces consultations politiques, mais derrière leur leader. Ils l'ont dit à l'issue d'une réunion tenue le week-end dernier à Mbandaka. Des précisions avec le coordonnateur provincial. Les propos de Christophe Itofo ont été recueillis par Paul-Richard Malengela.
L'initiative est louable parce que vous avez remarqué ce qui s'est passé quand le chef de l'État nomme quelqu'un. Le ministre refuse parfois de notifier. L'Assemblée refuse parfois de valider. Et ça relève d'un imbroglio politico-juridique. Et comme le chef de l'État a jugé bon de réunir les leaders politiques de différents partis, alors nous, à l'Équateur, nous louons cette initiative. Et nous donnons notre force à notre leader politique, Moïse Katumbi. Comme il a toujours prôné l'unité de la nation, et il est le catalyseur, il a toujours dit qu'il va faire l'opposition républicaine pour l'intérêt des peuples congolais. Et c'est comme ça que l'ensemble pour la République, province de l'Équateur, nous avons donné notre soutien à notre président, Moïse Katumbi.
On enchaîne avec le Nord Kivu où la situation humanitaire est catastrophique après les attaques attribuées aux rebelles ougandais de l'ADF dans plusieurs villages d'un groupement de Buliki au sud du territoire de Beni. Selon le chef du secteur de Rwenzori, des milliers de déplacés ont trouvé refuge dans des familles d'accueil à Kalunguta, à Butembo et à Kabasha. Ils n'ont aucune assistance. Il appelle à l'assistance des humanitaires et du gouvernement central. Bozi Sindiwayo a été joint par Marc Marofimo.
Il y a eu des déplacements massifs de la population. La population a quitté Kitimba, Kinshasa, Pabuka, Mukondi, ainsi de suite pour se diriger vers Kalunguta, les autres Butembo et certains se sont dirigés vers Beni et d'autres à Kabasha. Ils sont dans des familles d'accueil comme on a toujours été hospitaliers. En fait, du côté Mutuanga, il y a quand même des interventions de la part de certains partenaires. Mais compte tenu de cet afflux-là massif, l'assistance n'a pas été tellement suffisante. Et voilà pourquoi on ne cesse de faire des plaidoyers envers les humanitaires pour qu'on prenne quand même la question parmi les priorités. Tous ces partenaires qui nous arrivent à partir de l'autorité provinciale qui leur donne quand même ce faveur d'intervenir dans notre zone.
Pour mémoire, plusieurs attaques attribuées aux rebelles ougandais de l'ADF ont eu lieu entre mercredi et samedi dernier au sud du territoire de Beni. Le bilan de ces attaques fait état d'au moins 50 personnes tuées. À Bukavu, chef-lieu du sud Kivu, la tension est montée d'un cran ce lundi matin dans la commune de Bagera à la sortie de la ville. Les habitants du quartier Moulamboula ont barricadé ce matin la route qui mène vers l'aéroport de Kavumu. Ils protestaient contre le meurtre la nuit dernière d'un jeune d'une vingtaine d'années. Des policiers sont intervenus pour les disperser. La société civile plaide pour l'ouverture d'une enquête afin de mettre la main sur le meurtrier. Des précisions avec un membre de la société civile, Wilfried Abamungu, a été joint par Emmanuel Elmejo Kabedi.
L'assassinat de ce jeune Fidel Katembera, de 24 ans, il a été assassiné par balle vers 1h du matin. Il venait du lac Kivu parce que c'est un pêcheur. En voulant monter de chez lui parce qu'il habite à proximité, à quelques mètres du lac Kivu, on lui a assassiné par balle dans le quartier Mulambula Siraveni Kalengera. En commune de Matira. Et maintenant, il est à la morgue de l'hôpital général. La route était barricadée par les jeunes en colère, mais la situation est déjà calme. Parce que il y a les éléments de la police qui ont essayé de calmer la situation. Nous, comme nouvelle dynamique de la société civile noyau communale de Bagira, nous dénonçons cette recrudescence de l'insécurité dans cette partie de la ville de Bukavu et dans toute la ville de Bukavu en général. Nous demandons aux autorités de mener des enquêtes sérieuses pour dénicher et attraper l'auteur de l'assassinat de ce jeune Fidel Katembera qui a été assassiné par balle.
Et en Ituri, une centaine de miliciens de la Codeco basés à Sayo, un des quartiers de la commune rurale de Mungwalu, située à 85 km au nord de la ville de Bunia, acceptent d'adhérer au processus de paix. Ils l'ont dit hier dimanche à la délégation d'anciens responsables des groupes armés envoyés par le chef de l'État congolais. Son chargé des communications indique que ces miliciens ont également accepté de quitter Sayo où leur présence était mal perçue par la population locale. À Bunia, le compte-rendu de Martial Kizabiamungu.
Suit après une série de rencontres entre la délégation composée des anciens seigneurs de guerre, différentes couches de la population et des assaillants que ce dernier ont enfin accepté d'adhérer à l'acte d'engagement unilatéral signé par les dirigeants de la Codeco IRDPC. Selon les chargés de communication de cette délégation, ces centaines d'éléments étaient à la base de plusieurs exactions contre la population locale. Pichu Iribi indique que ces miliciens érigeaient des barrières et percevaient des taxes par force. Avec leur souhait de rejoindre les processus de paix, la population de Sayo va maintenant vivre en paix, ajoute-t-il. Pichu Iribi.
Nous les avons invités à adhérer au respect de l'acte d'engagement. Ils ont accepté de partir. Et l'accord signé donne la possibilité à ces combattants de se promener, mais sans armes ni insigne militaire, quoi que ce soit. Les contacts que nous avons eus avec eux, je n'ai pas vu où ils ont résisté à quitter Sayo.
Notons qu'au stade actuel, seule la faction de la Codeco de l'armée pour la libération du Congo, ALC, basée dans les secteurs de Walendutati, s'est retirée du processus de paix après avoir signé l'acte d'engagement unilatéral. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où les avocats et défenseurs judiciaires suspendent leurs activités dans les juridictions et parquets civils et militaires de la ville de Butembo. Ils protestent contre la mort d'un défenseur judiciaire lynché vendredi dernier dans le quartier Rwenda. Ce lundi, plus de 100 auxiliaires de justice ont manifesté dans la ville. Ils ont marché à partir du quartier Rwenda jusqu'à l'hôtel des villes où ils ont déposé un mémorandum. Radio Okapi Butembo, grâce à Mzati.
Cette marche des avocats et défenseurs judiciaires à Bietou Santoj s'est déroulée sous un soleil ardent. À travers leur accoutrement, les défenseurs judiciaires ont attiré la curiosité de la population. Celle-ci est partagée entre la curiosité et l'émoi, se souvenant de Maître Meshak Mitavo, sauvagement lapidé dans le quartier Rwenda et mort de ses blessures. Maître Moïse Kambale Ndekeyong, le syndic et chef de file, explique les revendications contenues dans leur mémorandum.
Le parquet est déjà saisi, il est en train déjà de mener l'instruction. Une fois les auteurs seront attrapés, nous voudrions que le parquet puisse fixer le dossier au tribunal et que le tribunal puisse directement organiser une audience en flagrance. Et que ces gens-là soient condamnés à voir en prison. Nous voudrions que désormais, par l'occasion, que les conseils de sécurité puissent chaque fois nous sécuriser lorsque il y a un devoir du parquet ou du tribunal. Parce que là maintenant on a peur. Quand vous avez à descendre, on commence à avoir peur.
En guise de solidarité, le barreau du Nord Kivu a, dans un communiqué rendu public dimanche dernier, décidé de l'arrêt de toute prestation devant les juridictions et parquets civils et militaires de Butembo par tous les avocats pendant 7 jours à dater de ce lundi. Pour rappel, Maître Meshak Mitavo, défenseur judiciaire, a succombé à ses blessures samedi dernier après avoir été lapidé lors d'une descente sur terrain dans la concession conflictuelle de Mutitiro à Rwenda. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, le sit-in observé devant la primature à Kinshasa pendant plusieurs mois par une délégation des victimes de guerre de Kisangani a porté ses fruits. Il y a quelques jours, le Premier ministre a finalement décidé d'apporter une assistance de 15 millions de dollars américains à ces milliers de Congolais qui ont perdu des proches, sans oublier des dégâts matériels qu'ils ont subis avec notamment leurs maisons qui ont été détruites lors des bombardements. Ces personnes portent jusqu'à ce jour des stigmates de la guerre et d'autres sont même devenus infirmes. Tout en saluant ce geste du gouvernement central, 20 ans après, les victimes disent ne pas être d'accord avec le ministre des Droits humains, André Litté. Selon eux, le ministre s'est rendu à Kisangani avec une liste des victimes, ignorant celles détenues par la délégation qui est ici à Kinshasa. Des précisions avec le président de ce comité, Kalokola, a été joint par Daniel Tambizoni.
L'assistance décrétée par le chef du gouvernement nous a beaucoup réjouis, mais seulement nous regrettons que le ministre des Droits humains, qui n'est jamais venu nous visiter ici devant la primature où nous totalisons déjà 10 mois depuis que nous sommes ici, est allé à Kisangani alors qu'il sait très bien que le comité de coordination des victimes est ici à Kinshasa, qui se bat pour que le gouvernement entende la voix des sinistrés pour la toute première fois depuis 20 ans. Il a ramené de Kisangani une liste dont nous ignorons les contenus. Son Excellence a même refusé que nous comparions les listes. Nous étions encadrés par le Centre international de justice transitionnelle et une ONG de défense des droits de l'homme local sous la coordination de Paul Kibaka à Kisangani même. Mais nous sommes surpris que le groupe Lotus vient d'être impliqué dans le processus. Tout cela parce que le gouvernement a sorti l'argent en faveur des victimes de la guerre de Kisangani. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons voir clair dans cette histoire.
En réponse à cette préoccupation, le ministre des Droits humains se refuse de répondre à Kalokola, alléguant qu'il n'est pas crédible. Il ajoute que l'argent reçu du gouvernement central sera remis aux victimes à Kisangani et non pas ici à Kinshasa.
Actualité internationale.
Le taux de participation au référendum constitutionnel qui a été organisé hier dimanche en Algérie s'est établi à 23%, a annoncé ce dimanche soir le président de l'autorité nationale indépendante des élections, un plus bas historique pour les scrutins majeurs organisés dans ce pays.
L'invité.
Lancement le week-end dernier à Lubumbashi du mois de la photo, placé sous le thème « Une photo, une histoire ». Les exposants voudraient démontrer qu'avant la pandémie du coronavirus, pendant et après le confinement, la vie a continué son cours normal. Et à travers les mesures barrières, certaines personnes poursuivent leurs activités comme par le passé. Pour en parler, le promoteur du mois de la photo est notre invité, Kazadi Sikasso, entretien avec Jean Gandou.
Kazadi Sikasso, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de lancer un événement culturel dénommé le mois de la photo. Pourquoi le mois de la photo?
Le mois de la photo, la 5e édition, a bien débuté ce 30 octobre 2020 à l'Institut français de Lubumbashi. Le thème de cette année, c'est une photo, une histoire. Nous venons de traverser une époque assez difficile suite à la pandémie qui nous a causé pas mal de reports dans tout ce qui concerne nos agendas sur le plan culturel. Le mois de la photo est une opportunité pour tous les amoureux de la photographie ou de l'art en général de se réconcilier un peu avec tout ce qui s'est passé pendant les 6 mois de confinement.
Ça veut dire quoi? Il y a des photos qui sont exposées à un endroit bien particulier ou comment?
Oui, les photos sont exposées dans la salle à l'Halle de l'Étoile, l'Institut français de Lubumbashi. Il y a un photographe de Kinshasa, Piana Monkwe et Kazadi Sikasso, les fondateurs du mois de la photo.
Quelles sont les différentes photos qu'on peut retrouver là-bas?
Par exemple, moi j'expose une série sur la lumière quotidienne. Malgré la pandémie, le monde ne s'est pas arrêté. les gens sont sortis de leur maison et ont continué à vaquer librement à leurs occupations. Et à travers mes photos, vous verrez très bien que la pandémie a été quand même dévastatrice, mais la vie ne s'est pas arrêtée. Donc à travers la photographie, vous verrez très bien que les gens étaient bien occupés et chacun n'hésitait pas à faire quotidiennement ce qu'il avait toujours fait avant la maladie, pendant la maladie et après le déconfinement.
Il y a combien de photos qui sont exposées ?
Là, nous avons exposé au moins 22 photos. Il y a une série en noir et blanc et une série couleur.
Pourquoi noir et blanc ?
Bon, noir et blanc, ça nous permet vraiment de reconstituer la réalité. Selon moi, parce que la photographie, c'est aussi une façon d'écrire l'histoire ou d'en témoigner. Et la photographie, c'est le résultat de la lumière. Pour moi, c'est une écriture, une façon d'écrire avec la lumière.
Est-ce que le public louchois est habitué à des expositions photos?
Le public louchois est habitué en ce moment parce que c'est la 5e édition. La 5e édition a attiré pas mal des jeunes photographes, des artistes de l'académie, on a reçu même des personnalités. Donc le mois de la photo est devenu un événement majeur dans la ville de Lubumbashi.
Et quel est le message clé que les gens peuvent tirer en allant voir ces différentes photos que vous exposez?
D'abord, comprendre la vie de tous les jours et à travers les événements que nous traversons, que nous connaissons, et la photographie devient un témoin incontournable. Si nous arrivons à organiser et à exposer nos photos, nous sommes en train de voir comment les événements qui nous touchent sont plus, pas seulement culturels, mais aussi mémoriels. Parce que la photographie nous permet de nous replonger dans les temps passés, tout en exploitant les sujets du présent et le futur.
Est-ce qu'en ce jour, un photographe peut vivre de son art?
Ça, c'est vraiment une question difficile. Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que chacun a une démarche qui lui est tout à fait propre. Et aujourd'hui, la photographie n'est plus un parcours de combattant comme à l'époque de la photographie argentique, où il fallait avoir des qualités. C'est-à-dire, pour prendre une photo, il fallait savoir l'ouverture, la distance, la vitesse, les hasards, donc l'ISO, pour dire la sensibilité du film. Mais à l'époque, la photographie, c'était un art. Mais aujourd'hui, avec l'ère numérique, la photographie s'est plus transformée en image. Tout le monde peut faire une photo. D'ailleurs, on voit bien combien, à la longueur d'une journée, les gens tirent des photos, des selfies avec leur appareil téléphone. Mais nous, avec l'ère numérique, nous arrivons toujours à nous exprimer en tant que photographe, parce que la photographie argentique, c'était une très bonne base pour chaque photographe de cette époque-là. Mais aujourd'hui, le numérique donne la possibilité et l'opportunité à chacun de nous de tirer des photos. Donc la photographie, on peut en vivre si on l'exploite d'une façon, je ne dirais pas professionnelle, mais comme un artiste, comme un chercheur. Par exemple, moi, je fais plus la photo dans les domaines des sports, de la mode, événementiel, en tant que reporter photographe.
La discussion, je vous remercie.
C'est moi qui te remercie.
L'invité de Radio Okapi, c'était Kazadi Sikasso, le promoteur du mois de la photo, 5e édition à Lubumbashi. Il était interviewé pour nous par Jean Gandou. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci de l'avoir écouté. Infiniment merci à Élisée Chikota qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelé Kipelamondo.